EMCI TV vous présente l'émission Teach avec Atoms. Un temps d'enseignement et d'étude de la parole de Dieu afin de faire de vous des disciples et vous aider à grandir dans votre foi.
Bienvenue sur Teach, votre mission d'enseignement et de maturité spirituelle. Cette semaine, nous allons affronter quelque chose de réel. Elle est là, il faut qu'on en parle. C'est un peu comme l'éléphant dans la salle. Dans la pièce, il y a quelque chose qui est là, que l'on soit spirituel ou moins spirituel ou peu spirituel, chrétien à fond ou nouveau converti. Il y a ce concept, cette réalité appelée souffrance. On souffre, il nous arrive de souffrir malgré notre foi, notre détermination, notre dévouement à la cause céleste. Mais en tant que chrétiens, nous n'avons pas la même définition de la souffrance. Tout au long de cette semaine, nous allons regarder la souffrance en face et on va zoomer de près jusqu'à y voir quelqu'un qui marche sur l'eau en train de venir. On crie fantôme, mais on se rend compte après que c'est le Seigneur qui vient nous visiter et nous sortir de notre barque, de sortir de notre problème qu'il y a sur notre barque. Cette semaine, on va regarder la souffrance de près et on va en tirer des leçons et on va l'accepter. Oh, c'est vrai que ça sonne bizarre dans les oreilles, mais on va l'accepter, l'affronter, passer par là, vaincre, dépasser. Cette semaine, je prie Dieu que ça soit un accompagnement fort, que celui qui est dans une souffrance et qui est dans une douleur forte se rende compte qu'il n'est pas seul, que l'Éternel est là avec lui. Justement, aujourd'hui, on commence déjà par savoir quelle est la définition de la souffrance d'après la Bible. Comment la Bible regarde la souffrance? Et moi, j'aime beaucoup le terme redéfinir. Alors, redéfinissons ensemble la souffrance, la stitch, grandissons ensemble. Personne n'aime entendre ce mot-là. Pourtant, ça nous arrive. Certains préfèrent cacher. Hein, ils se sentent plus matures s'ils en parlent pas. Ils se sentent plus chrétiens. Certains même ont l'habitude de ne même pas oser confesser ça parce qu'ils trouvent que c'est du négatif. Je vais pas confesser ma souffrance. C'est comme si je l'installe dans mon climat spirituel. Quelle que soit votre manière de traiter, de dealer avec la souffrance, moi, je voudrais ici vous montrer que Dieu est au milieu même de ce que nous appelons souffrance. Voilà comment j'aimerais que vous puissiez regarder la souffrance tout au long de cette semaine. C'est comme si Dieu vous dit, voici à l'école de la vie, à l'université de la vie, vous êtes inscrit, voilà, ah ok, je suis devenu enfant de Dieu, je suis inscrit. Et dans votre liste d'enseignants, vous allez vous cliquer, souvent moi je vois comme ça, tu vas à l'université, on met la liste de tous les enseignants. Vous voyez votre prof d'apologétique, votre prof de sémiologie, votre prof, je sais pas moi, de marketing, de business. Et parmi les profs qui nous enseignent la vie de Christ, l'Esprit de Dieu, lui, il est là, c'est le doyen de la faculté, mais il utilise plusieurs autres profs. Autant il utilise la joie, la prière, il y a un prof qui enseigne une matière très difficile. Personne n'aime ce cours-là. Et après qu'il ait enseigné, très peu de gens ont compris. Ça demande à ce que quand il a fini d'enseigner, quelqu'un vienne un peu nous accompagner. Parce que souvent, ce n'est pas ce que nous fait subir le prof qui est l'enseignement. Mais c'est ce qui en découle qui est le meilleur enseignement. Comme dans toutes les facultés, on a un prof, on dit « Ah non, sa matière est difficile. Non, la philologie, la philosophie antique, non, c'est ça me fait dormir ce cours-là. Les profs, ils parlent trop, moi, j'arrive plus à suivre. » Ou c'est les maths, là, « Ah, c'est de la géométrie, ah, c'est la trigonométrie. » Alors, il y a un prof de la vie engagé par Dieu qui s'appelle souffrance. Ses cours sont durs, mais ses cours sont obligatoires. Ces cours sont durs, mais pourtant, sans ces cours-là, tu passes pas à la prochaine classe. Ces cours nous forment, ces cours nous transforment. Ce prof est engagé par Dieu. C'est comme ça que j'aimerais que vous puissiez voir la souffrance tout au long de cette semaine. Dieu peut être en plein milieu de la souffrance. Et pour ça, on doit d'abord la comprendre. Voici la première des choses que j'aimerais que vous puissiez retenir. C'est que la souffrance est une pression réelle. Et non une illusion. La souffrance est une pression réelle Ce n'est pas une illusion. La Bible, lorsqu'elle parle de la souffrance, elle nie pas la souffrance. La Bible ne dit pas la souffrance n'existe pas. La Bible, lorsqu'elle parle de la souffrance, elle la divinise pas, elle en fait pas des éloges de gloire, elle la glorifie pas non plus. La Bible n'est pas inconsciente. Ce n'est pas un livre des illuminés qui veulent imaginer juste un avenir somptueux, un ciel et une terre remplis de joie. Non. La Bible n'est pas là pour nous faire dormir face à la réalité. La Bible regarde en face la souffrance. Elle juste des fois le mot affliction, détresse, angoisse. C'est réel. La Bible met la souffrance juste là au milieu, on la regarde. Elle n'est pas une illusion. Mais c'est une pression qui existe. 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 8 à 9. Voilà ce qui est dit. 2 Corinthiens 4, 8 à 9. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. J'aime ces encouragements de Paul. Il dit, il y a de la pression. On en est conscient. Il commence par dire, nous sommes pressés de toute manière. Nous sommes pressés. On ressent. Frère, peut-être qu'en m'écoutant aujourd'hui, vous êtes aussi pressés. Vous dites, c'est déjà la fin du mois. Et puis, entre-temps, il y a cette affaire. Et puis, le mariage, ça marche pas. Dans tous les cas, mon mari ne me comprend pas. Et puis, il y a la pression. C'est comme si je donne tout à tout le monde et personne ne me donne rien. Vous savez, ces jours où tu te réveilles, tu te dis, c'est comme si je suis un éléphant et que tout le monde s'est dit je suis tellement gros qu'on peut chacun peut couper sa petite part et ils oublient qu'à force de prendre une petite part ils sont en train de me tuer à petit feu. Tu as l'impression que tu dois à tout le monde et personne ne te doit rien. C'est des petits moments comme ça de dépression et tu sens que tu souffres. Tu dis mais Dieu est-ce que tu ressens ça? Écoute les apôtres ont ressenti aussi que ça soit pour le compte de l'œuvre de Dieu. En tentant même d'accomplir la volonté de Dieu, en essayant d'accomplir ses responsabilités parentales, familiales, même les enfants ressentent ça. Paul dit, on est pressé de toutes les manières, mais on n'est pas réduit à l'extrémité. On est dans la détresse, mais non dans le désespoir. On est persécuté, mais non abandonné. On est abattu, mais non perdu. Frère, la souffrance existe, sa pression est réelle, mais elle ne cause pas notre explosion. Oh, gloire à Dieu. Ça peut presser de toutes parts, mais on n'explose pas. Merci Seigneur. Ça peut venir de partout, de haut en bas, de gauche à droite. On a pressé, mais on n'explose pas. On est toujours là. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes encore vivant, c'est que la pression de la souffrance n'a pas eu gain de cause sur vous. C'est que quel que soit ce qui presse, que ce soit Dieu qui tente de te presser pour te rendre fort, que ce soit le monde qui tente de te persécuter, tu es encore là. Et j'aime ce que la Bible dit, un chien vivant vaut plus qu'un lieu mort. La souffrance est une pression réelle. Ce n'est pas une illusion. Elle est là, Paul accepte, ça dit, on le ressent, mais on n'en est pas mort. C'est un peu comme conduire un véhicule. Moi, j'ai conduit des véhicules dans des endroits et j'ai chargé des véhicules à des endroits. Il me faudra trop de temps pour vous expliquer qu'est-ce que ça signifie vraiment pour que tout le monde me comprenne. Mais des fois, il y avait des charges. Alors, quand je vous dis des charges, c'est des charges. J'oublierai jamais que le moment le plus complexe de ma vie où j'ai vu une machine, un moyen de locomotion chargé bizarrement. C'était la fois où j'étais quelque part en Ouganda et que je marchais, je faisais mon repos. J'ai vu un motard rouler sur la route, c'était en TB. Et ce qu'il avait porté, vous n'allez pas croire, il avait porté un lit, pas un matelas. La structure du lit déjà fixée, tout un lit. C'est-à-dire que quand il roulait, vous ne pouviez pas rouler à côté de lui. C'était chargé. Vous pouviez voir un motard seul avec un lit. Donc, ça dépassait de partout. Quand vous regardiez les pneus, vous pouvez voir que les pneus en subissent un coup. Mais ça roule. Les pneus vous disent que c'est chargé. Vous sentez que les pneus sont compressés. Mais ça marche, ça roule, ça avance. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Vous êtes peut-être comme ces pneus qui ressentent le poids de la pression. La Bible en est consciente. Le Dieu de la Bible en est conscient. Mais vous n'allez pas exploser. Il n'a pas dit qu'il va vous abandonner. Il a promis de vous amener jusque de l'autre bord. La pression de la souffrance est une réalité. Et je ne vous annonce pas ce message pour vous dire que ça n'existe pas. Ça existe. Je n'essaie pas de vous amener dans un genre de déni basé sur la chrétienté. La Bible est claire, la souffrance existe, la pression existe. Mais autant tu es pressé, tu ne vas pas exploser. Romains chapitre 8, verset 22. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre le douleur de l'enfantement. Vous voyez ce que l'apôtre dit ici? Il dit, même la création elle-même est dans une forme de douleur et les sous pression. Vous n'êtes pas le seul. Toute la nature elle-même, elle est dans une forme de douleur d'enfantement. Elle est sur le point de passer à quelque chose d'autre. Ta pression peut être signe que tu es sur le point de passer à quelque chose d'autre. Donc, on tente de définir ensemble la pression, de la regarder selon le modèle biblique, de redéfinir le sens de la pression. On dit que, un, la pression, elle est réelle, elle n'est pas une illusion, la Bible la reconnaît. Deuxièmement, Dieu n'est pas l'auteur du mal. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Vous voyez comment j'aimerais bien que vous fixiez cela sur le mur et que vous puissiez savoir que cette phrase est bien choisie et elle a besoin d'être nuancée. Quand on dit que Dieu n'est pas l'auteur du mal, j'ai besoin de placer de l'équilibre avant de continuer. Quand vous lisez la Bible dans son entièreté et que vous voulez faire soin d'usage des mots justes, quand je dis Dieu n'est pas l'auteur du mal, vous pouvez tomber dans la tentation de dire que c'est une affirmation discutable. Pourquoi? Parce que simplement, plusieurs textes, les textes forts de la Bible qui dit « Arrive-t-il un malheur sans que Dieu en soit la cause ?» Ça peut être déjà un des textes qui peut vous troubler. Simplement, la simple raison, c'est que la langue hébraïque, c'est une langue d'action. Donc, tout se dit en sens actif et il n'y a pas trop de passivité. Et deuxièmement, la croyance hébraïque considère que Dieu est la source de tout. C'est-à-dire qu'il ne peut pas exister quelque chose qui puisse venir en existence sans que Dieu en soit la source. Et ça, c'est une vérité. Dieu est le point de départ de tout. En disant qu'une chose arrive sans que Dieu en soit la cause, ça montre le fait que Dieu gère l'univers. S'il ne l'a pas permis, rien ne peut arriver. On comprend plus tard dans le Nouveau Testament le sens de cette volonté permissive de Dieu. Mais c'est aussi pour dire que, à la base, même ce qu'on appelle mal, c'est le revers de la médaille du bien. Si le bien n'existe pas, aucun mal ne peut se créer autour de ça. Ça veut dire que Dieu, en étant l'auteur du bien, l'opportunité de faire le mal est née à travers le bien qu'il a révélé. Paul résume ça en disant, « Je ne connais sans la loi, je n'aurais pas connu le péché. » Alors, vu de cette manière, vous considérez que ce qu'on appelle mal aujourd'hui a pris origine par la déformation du bien. N'oubliez pas aussi qu'il y a des textes forts qui disent que Dieu, dans le jardin d'Éden, il a fait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du positif et du négatif, de connaître la bonne direction des choses et comment on peut s'en détourner. Alors, mais quand je suis ici en train d'affirmer que Dieu n'est pas l'auteur du mal, c'est dans le sens de Jacques chapitre 1, verset 13. Jacques chapitre 1, verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « Dieu, c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente personne. Vous voyez, Jacques dit « Dieu lui-même ne subit pas l'influence du mal ». Et lui-même ne peut pas être auteur d'amener ce mot-là, c'est ce mal dans la vie de quelqu'un. Le verbe « tenter » qui est utilisé ici en grec, c'est un peu un verbe qui peut être confusant, parce que c'est le même verbe qui signifie aussi « éprouver ». Seulement, c'est dans le contexte qu'on est capable de déterminer qu'on parle de « tenter » négativement, c'est-à-dire de mettre dans une épreuve en vue de décourager, d'affaiblir la personne qui passe par là. Et c'est le contexte qui dicte aussi que le mot « éprouver » alors voudra dire faire passer quelqu'un par une situation qui le rendra meilleur, même si elle peut être douloureuse. Dieu donc ne subit pas le mal et le mal ne vient pas essayer de mettre en lui une pensée autre. Il ne subit pas ça et Dieu non plus ne conçoit cela. Dieu ne conçoit pas quelque chose pour détruire sa propre création. Alors, lorsque quelqu'un souffre, même si ça peut s'appeler souffrance, même si tu te dis « je ne vois pas à quoi ça mène pour qu'un individu souffre jusqu'à ce point », je vous assure que la finalité de ce que vous appelez épreuve et souffrance, même si pour vous il a mal fait, c'est simplement que vous ne savez pas les enjeux qui existent, parce que Dieu n'est pas l'auteur du mal. Psaume chapitre 119, verset 68. Psaume 119, 68. La Bible dit « Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes statuts. » Le psalmiste décrit Dieu, il dit « Dieu, tu es bon et bienfaisant. » C'est à ce Dieu-là que nous avons affaire. Dieu n'est pas mesquin, mauvais. Ce n'est pas en lui. Ce n'est pas dans sa nature. Dieu n'est pas là pour être mal, mauvais, méchant. Dieu n'est pas comme ça. Mais ça n'empêche pas que quand il envoie cet enseignant appelé souffrance, douleur, nous on se dit, ah non, ça fait trop mal, Dieu, Dieu est mauvais, comment il peut laisser des choses pareilles? Vous savez, dans ma vie, je me suis assis, j'ai contourné certaines situations, dans tous les sens, de manière positive. Ah, je ne suis qu'un petit cerveau, peut-être que vous avez fait mieux. J'ai tourné, je me suis dit, comment cette personne aurait pu mieux apprendre cette chose sans qu'elle passe par une souffrance? Moi, je n'ai pas réussi. Il y a des meilleurs cerveaux, de loin meilleurs que le mien. Juste dans mon petit cerveau, j'ai tourné plusieurs fois. Et je n'ai pas vu comment l'être humain peut devenir meilleur sans la souffrance. Et la Bible, j'ai l'impression qu'elle a tendance à dire la même chose. Dans la pédagogie, dans la manière d'aider l'être humain, de sortir, d'extirper le mal du péché en lui, il n'est pas possible d'éviter la souffrance. La souffrance n'en est même pas un mot, ça n'en est même plutôt pas un mal. Ce n'est pas une chose mauvaise. Ça fait partie de la thérapie. Il faut qu'on passe par là. Dieu, mes amis, n'est pas l'auteur du mal. Il ne conçoit pas, il ne se met pas à prévoir à te faire mal. Même si ça te fait souffrir, il ne vise pas ça. Ça, c'est un passage obligé. Tu ressens, c'est toi qui ressens la douleur. Mais c'est un passage obligé vers le bonheur. Troisième vérité. La plainte biblique est un acte de foi. La plainte biblique, vous voyez, j'ai bien mis entre parenthèses, lamentation. Vous vous souvenez de ce mot, vous l'avez déjà vu dans la Bible. Lamentation de Jérémie. Alors, quand vous voyez dans la Bible le mot « lamentation », l'idée, ce n'est pas comme on le penserait en français, se plaindre. En fait, « lamentation », c'est un peu écrit après la chute d'Israël. Jérémie écrit ça un peu comme pour pleurer sur la situation de son peuple. Dieu avait parlé et Israël n'a pas entendu. Mais les lamentations ou les plaintes bibliques sont aussi un acte de foi pour dire que je pleure à ce Dieu-là, auprès de ce Dieu-là, le Dieu qui avait prévu, qui nous avait prévenu. Maintenant, le mal dont il nous avait prévenu est arrivé. À qui irais-je encore si ce n'est pas auprès de lui? Je viens pleurer auprès de lui qui a grâce, qui a la capacité de nous sortir de là. La lamentation ou les lamentations sont une preuve qu'on croit que Dieu est le seul capable de résoudre notre problème. Qu'à l'origine, si on l'avait écouté, on serait dans les meilleures conditions. Donc, si on va vers lui, il est le seul à nous sortir de notre difficulté. Ce n'est pas une façon de se dire, je me plains de ton incompétence, Seigneur. Quand même, un Dieu peut faire mieux que ça. Non, c'est pas ça, les lamentations. Ce n'est pas juste venir jeter ses plaintes. Non, c'est venir dire, un peu comme dirait Pierre, à qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Lorsque l'on passe par un temps de souffrance, selon la Bible, la souffrance par laquelle on passe nous donne le droit de faire ce qu'on appelle les plaintes bibliques ou les lamentations. Je précise très bien. Ce n'est pas se lamenter près des gens. Ce n'est pas se plaindre. Ce n'est pas colporter. Ce n'est pas se faire décrire Dieu comme un malfaiteur qui nous fait souffrir en secret. Un bourreau qui est là à faire souffrir ses victimes. Non, c'est rentrer près de lui et pleurer à ses pieds en disant « Dieu, ne vois-tu pas que nous souffrons? À qui irons-nous? Toi seul es la vérité. » Ça, c'est un acte de foi. Ça veut dire que tu fais confiance encore que c'est lui qui a la capacité de fixer la situation qui semble te faire souffrir. Psaume 13, versets 1 à 6. Psaume 13, 1 à 6. Au chef des chantres, psaume de David. Jusque à quand, Éternel, m'oublierais-tu sans cesse? Jusque à quand me cacherais-tu ta face? Jusque à quand aurais-je des soucis dans mon âme? Et chaque jour du chagrin dans mon cœur, jusque à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne de la clarté à mes yeux, afin que je ne m'endors pas dans la mort, afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur, à cause de ton salut. Je chanterai à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Est-ce que vous avez vu l'évolution de cette conversation? On a l'impression de quelqu'un qui vient avec des... Il est plaintif, il n'a pas de foi. Non. Il a la foi. La foi ne lui empêche pas d'exposer devant son Dieu la douleur qu'il ressent, le problème, la force, le poids de sa souffrance. Mes amis, ce n'est pas manquer de foi lorsqu'on parle à Dieu de nos souffrances. La souffrance, selon la Bible, est un sujet de conversation avec Dieu. On ne va pas le dire, écoute, parlons d'autre chose, hein, parce que je pense que c'est comme si tu ne comprends pas que je souffre. Parlons, tu veux quoi? Que je puisse juste évangéliser? Je vais évangéliser. Non, la Bible t'octroie le droit de venir auprès de ton père et dire, mais jusque à quand, Seigneur? Mais comme un acte de foi. Et le psalmiste avance en disant, Éternel mon Dieu, donne de la clarté à mes yeux, afin que je m'endors pendant. Et il dit, moi, j'ai confiance en ta bonté. Lamentation, chapitre 3, versets 21 à 23. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnerait de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Waouh! Vous savez que ça, c'est dans les livres des lamentations. Vous ne croirez pas, hein, que une parole remplie d'autant d'espoir est dans un livre appelé Lamentations. Il dit, voici la décision que j'ai prise. C'est tout, on va parler que de se lamenter, de se plaindre ici. Mais on se plaint pas comme les hommes. On ne se plaint pas pour juste montrer notre frustration. On va vers le Seigneur pour demander secours. On exprime notre confiance à lui. Et voilà ce qu'on a décidé. Parce que les bontés de Dieu ne sont pas finies. Je ne me plains pas comme si j'étais devant une impasse. Je me plains près de la seule personne qui a la solution. C'est une expression, une forme de prière, littéralement. Ça commence à changer un peu la façon de voir la souffrance, n'est-ce pas? Je commence d'abord par dire que la souffrance est une pression réelle. Ce n'est pas une illusion. Je continue en disant que Dieu n'est pas l'auteur du mal que nous on pense être mal. Et troisièmement, je dis que la plainte biblique, qu'on appellerait lamentation si vous voulez, est un acte de foi en fait. Et quatrièmement, Jésus a souffert avec et pour nous. Il est encourageant de savoir que la souffrance n'est pas une chose que subissent les gens qui adhèrent à la foi chrétienne. Non, Christ Jésus, base de notre foi, Dieu fait chair, même lui, puisque venant sur la terre et emporté la vie, le corps de l'être humain, n'a pas pu échapper. Parce que la souffrance n'est pas une chose dont on doit s'échapper. Ça fait partie du processus de notre maturation et de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Dans le processus de la révélation de la volonté de Dieu sur la terre, il se passe cette étape où nous ressentons une pression forte que nous appelons souffrance. Et le Fils de Dieu venu sur la terre, au moment d'exploser le plan merveilleux de la gloire du Père, est passé par là aussi. C'est rafraîchissant de savoir que Jésus a souffert. La souffrance de Jésus a quelle différence? Il a souffert pour nous et il a souffert avec nous. Comment ça avec nous? Moi, je n'étais pas né. Justement, c'est ça tout le bonheur. Jésus-Christ a souffert pour que dans sa souffrance, il soit en train de nous accompagner dans la nôtre. Ésaïe chapitre 53, verset 3. méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Le prophète prophétise au sujet des douleurs de Christ avant qu'il n'arrive. Il montre comment ça allait être. Hébreux chapitre 4, verset 15. Hébreux chapitre 4, verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été comme nous en toutes choses sans commettre le péché. Wow. Ça veut dire que, hormis le fait de pécher, Jésus a ressenti ce que tu ressens. C'est important ça. C'est comme si tu allais voir un chirurgien qui est passé par la même opération. Il te parle plus comme un professionnel de la santé, il te parle comme un témoin. Quand il te dit, ouh, je sais, il faut que je puisse ponctionner un peu de ta moelle épinière, je t'assure, ces choses, ça fait mal. La foi, on me l'a fait à moi, là-haut, je t'assure que j'ai passé une semaine. Est-ce que vous sentez pas combien c'est rafraîchissant de parler à son médecin, sans se dire quelque part au fond de sa tête, ah, oh, il dit ça parce qu'il est médecin, il sait pas comment je vais en souffrir. Mais vous partagez ça, et le médecin te dit, je t'assure, ça fait mal. Il dit, ah, oh, c'est vrai. Il dit, mais après, écoute, après, ça passe. Hein, regarde, moi, je vais te montrer ma cicatrice. Ça m'a pris 2-3 semaines après. Cette identification avec le médecin. Allez, pas juste quelqu'un qui a souffert. Le médecin, c'est lui qui va fixer ton problème. Ne va pas le fixer que par connaissance théorique à ta situation. Mais il en a l'expérience. Oh, quelle bonne nouvelle de savoir que nous avons auprès de Père un sacrificateur qui a vécu la même chose que nous. Rappelle-toi donc, en tant qu'enfant de Dieu, redéfinis la souffrance. La souffrance, ce n'est pas une chose qui ne m'arrive qu'à moi parce que je manque la foi. Non, elle est une manière obligatoire de passer par un chemin qui manifeste le mieux la volonté de Dieu. Jésus lui-même l'a vécu. 5. Avant de se séparer, espérance ultime. Je voulais placer en nous l'espérance ultime en disant, pas de larmes pour toujours. Frères et sœurs, nous ne souffrirons pas toujours. L'épreuve de la souffrance, la place de la souffrance est liée à ce siècle, à la condition pécheresse de l'homme et dans cet univers où nous vivons. Un moment viendra, un jour viendra. On n'aura plus besoin de souffrir parce que nous aurons été perfectionnés. Nous serons devenus parfaits. Notre imperfection nous tarde de l'humain, de ce condition de l'humanité, de ce corps, demande à ce que lorsque Dieu veut extirper la manifestation de sa gloire, on en ressente la chirurgie qui fait mal. Mais lorsque nous aurons porté la gloire, on n'aura plus besoin de souffrir. Romains 8, 18 dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Et Apocalypse 21, 4 dit ceci. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Oh, gloire à Dieu. Et il n'aura plus ni deuil, alléluia, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. C'est-à-dire mort, douleur, cri, tout cela, deuil sera disparu. Mes frères et sœurs, un jour, il n'y aura plus de souffrance. Ça sera pas un jour férié sans souffrance. Ça sera à partir de ce jour-là, plus de souffrance. Laissez-moi prier pour vous pour cette semaine, parce qu'elle va être très encourageante. Abba, je prie pour mes frères et sœurs qui m'entendent. Lorsque cette semaine, en passant par la vallée de l'ombre de la mort, chacun de nous, au milieu de ces ténèbres épaisses, se rende compte que le bon berger est là. Et que chacun regarde la souffrance comme un enseignant. Ceux qui ont passé toute leur vie à fuir les cours qu'enseigne la souffrance, et s'asseoir stylo à la main, apprennent et sortent de là complètement transformés. Au nom de Jésus, amen. Je suis sûr que cette semaine va être intéressante. Alors si vous n'êtes jamais abonné sur notre chaîne YouTube, alors j'aimerais vraiment vous encourager à vous abonner sur notre chaîne YouTube EMCI TV et nous serons très très heureux de partager des bons moments. Dieu vous bénisse et à demain.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Teach sur emcitv.com.